VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 11 octobre 2017, en direct de Washington, Idrissa Sédoudia et Jean-Roger Bion. Pour commencer les titres.
Au Burkina Faso, l'ancien ministre Djibril Bassolé a bénéficié d'une liberté provisoire.
Au Togo, le gouvernement interdit les manifestations en semaine.
Au Nigeria, 300 membres présumés de Boko Haram placés en détention provisoire.
Coup de théâtre au Kenya, Raila Odinga se retire de la présidentielle du 26 octobre.
Le président Trump discute avec ses principaux chefs militaires de la gamme d'options dont il dispose face à la menace nord-coréenne.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, le général Djibril Bassolé a été libéré de prison mardi soir à Preview Afrique à Ouagadougou. Le très influent ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères était incarcéré depuis 2015 à cause de son implication présumée dans la tentative de coup d'État manqué à partir des écoutes téléphoniques entre lui et Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Monsieur Bassolé a bénéficié d'une liberté provisoire à Ouagadougou. Retrouvons notre correspondant.
C'est aux environs de 20h que la rumeur sur la libération du général Djibril Bassolé a commencé à circuler dans la capitale burkinabé. Comme il n'y a pas de fumée sans feu, nous avons contacté son jeune cousin, Nicodème Bassolé, et c'est avec une voix pleine de joie qu'il nous a dit « Oui, ce n'est pas une rumeur, Bassolé a été libéré ». Il faut le dire, depuis un bon moment, les partisans de Djibril Bassolé ont donné de la voix pour demander une liberté provisoire ou bien qu'il passe en jugement, car cela fait environ 24 mois que le général Bassolé est en prison. Plusieurs tentatives de demande de liberté provisoire n'avaient pas eu une oreille attentive au niveau de la justice militaire. Mais cette fois-ci, la chambre de contrôle de l'instruction a accédé aux souhaits des partisans de Djibril Bassolé. Pour le moment, les motivations de la décision n'ont pas été rendues publiques, mais on suppose que le volet santé défaillante du général Djibril Bassolé a plaidé en sa faveur. Zoumana Wounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Togo, il est désormais interdit d'organiser des marches de protestation pendant les jours ouvrables. C'est ce qu'a décidé le gouvernement qui vient d'interdire les marches en semaine. Le point avec notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Les Togolais ne pourront plus organiser des marches politiques dans le pays de lundi à vendredi. Seuls les week-ends peuvent être dédiés à ce type de manifestation publique. C'est une décision du gouvernement togolais. Yak Damhan, ministre de la Sécurité.
En semaine, c'est meeting. Week-end, vous pouvez marcher. Ce que souvent nous déplorons, c'est cette violence qui accompagne ce que les gens appellent manifestation publique pacifique. Parce qu'on dit pacifique, les gens profitent, agressés, d'autres compatriotes. Les marches sont interdites en semaine.
Ce mardi matin, la coalition des 14 partis de l'opposition a annoncé pour le mercredi 18 octobre prochain une marche. Brigitte Adjamagbo de la dite coalition.
Une marche pour dire à la CEDEAO que nous ne sommes pas d'accord avec le référendum que l'institution semble encourager.
Il est à souligner que ce ne sont pas toutes les manifestations publiques qui sont interdites en semaine. Les meetings et les réunions politiques sont autorisés. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Plusieurs groupes armés ont signé lundi un accord de cessez-le-feu et de libre circulation dans deux préfectures du centre-est de la Centrafrique. Cet accord signé à Ipi inclut différents groupes armés issus de l'ancienne coalition pro-musulmane Seleka, dont le Front pour la Renaissance de la Centrafrique, FPRC mené par Noureddine Adam, et l'UPC, selon une source onusienne. Deux autres groupes armés sont aussi signataires, le Mouvement Patriotique pour la Centrafrique, MPC, et le RDR, Rassemblement des Républicains, un groupe anti-Balaka récemment créé. Cet accord ne concernerait que les préfectures de la Ouaka, dans le centre-est, et la Basse-Koto, sud-est, selon les signataires. Il intervient dans des zones où il y a beaucoup d'affrontements, note une source au sein de l'ONU.
République démocratique du Congo, un groupe de 7 ONG, a demandé hier des sanctions contre des membres de la famille du président congolais Joseph Kabila quelques jours après une lettre de 7 sénateurs américains au président Donald Trump et demandant des mesures si la crise politique persiste à Kinshasa. Les États-Unis et l'Union européenne devraient élargir le champ de leurs sanctions individuelles et les appliquer aux membres de la famille du président Joseph Kabila, écrivent dans un communiqué ces 7 ONG, dont Human Rights Watch.
Les Libériens attendent aujourd'hui les premiers résultats de la présidentielle tenue la veille dans le calme et qui doit désigner pour 6 ans le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique et prix Nobel de la paix 2011. La Commission électorale nationale, la NEC, doit annoncer dans l'après-midi les premiers résultats du scrutin qui conclut un processus historique de transfert démocratique des pouvoirs après les 2 mandats remportés par Mme Sirleaf depuis 2005. Nous reviendrons sur ces élections libériennes dans la seconde partie de cette édition.
Au Nigeria, 300 membres présumés de Boko Haram ont été placés en détention provisoire hier. Les premiers grands procès liés au groupe djihadiste ont débuté lundi. Le point avec John Linden.
Les audiences se déroulent à huis clos devant 4 tribunaux civils installés dans un centre de détention militaire à Kaindji, dans l'état du Niger, dans le centre du pays. Le ministère de la Justice a assuré que les procès seraient justes et que les accusés seraient poursuivis et non persécutés. Son porte-parole, Saliou Othman Issa, précise que 3 affaires distinctes, impliquant chacune 100 accusés, ont été examinées dans 3 tribunaux. Les juges ont ordonné que tous les accusés soient placés en détention provisoire pendant 90 jours dans l'attente d'enquêtes approfondies. Les audiences reprendront le 9 janvier. Un suspect, accusé d'avoir voulu faire exploser une mosquée de la ville de Bauchi, y a été transféré. Au total, 1669 suspects, dont 27 enfants, sont détenus à Kaindji en attendant d'être entendus par la justice. Le gouvernement a également prévu de poursuivre 651 autres détenus dans la caserne militaire de Giwa à Maïdougouri, la capitale du Borno.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Corée du Nord, alors que le président Donald Trump examine la gamme d'options militaires dont il dispose, les forces américaines ont fait avec la Corée du Nord et le Japon une démonstration de force commune contre Pyongyang via des exercices conjoints de tirs de missiles au large des côtes ouest et est de la péninsule coréenne. Monsieur Trump, rencontrant James Mattis, le ministre de la Défense, et le général Joseph Danforth, chef d'état-major interim, a discuté de ces options pour répondre à toute forme d'agression nord-coréenne et, si nécessaire, pour empêcher la Corée du Nord de menacer les États-Unis et leurs alliés avec des armes nucléaires, peut-on lire dans un communiqué de Sarah Huckabee Sanders, la porte-parole de la Maison-Blanche.
Par ailleurs, le président Trump doit annoncer dans les prochains jours qu'il ne va plus certifier le respect par Téhéran de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Ce qui donnera 60 jours au Congrès pour décider s'il faut ou non réimposer les sanctions américaines contre la République islamique. La loi américaine donne jusqu'au 15 octobre au président pour annoncer sa décision, mais celle-ci pourrait intervenir plus tôt, selon la Maison-Blanche.
D'autre part, la Cour suprême des États-Unis a annulé hier un des 2 arrêts qu'elle doit trancher et qui porte sur le décret migratoire du président Donald Trump concernant des pays essentiellement musulmans. Elle a rejeté le cas de l'American Civil Liberties Union parce que l'interdiction dont ce groupe réclamait l'annulation est arrivée depuis à expiration et a été remplacée par une nouvelle version. Mais les juges n'ont pris aucune décision sur un cas séparé soumis par l'État d'Hawaï et qui porte sur l'interdiction de voyager, tout comme l'interdiction concernant les réfugiés qui n'expire que le 24 octobre.
Le président Donald Trump a déclaré hier l'état de catastrophe naturelle en Californie en proie à de gigantesques incendies qui ont fait au moins 15 morts et dévasté les régions viticoles au nord de San Francisco. Ce bilan pourrait s'alourdir, 150 personnes n'ayant pas encore pu être localisées.
Le président séparatiste Carles Puigdemont a renoncé hier à déclarer immédiatement l'indépendance de la Catalogne, évoquant une suspension en vue d'un dialogue que l'on dit incertain. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le gouvernement de Catalogne et moi-même proposons de suspendre les effets de la déclaration d'indépendance, a déclaré Carles Puigdemont. Aucun délai n'a été fixé pour la proclamation. Auparavant, il avait estimé devant les parlementaires qu'il a reçu un mandat des Catalans qui se sont majoritairement exprimés à travers le référendum du 1er octobre. Pressé de toutes parts, l'ancien journaliste de 54 ans a suspendu la proclamation de l'indépendance immédiate et dit être ouvert à une solution négociée. Madrid et l'Europe ont exhorté le leader séparatiste à ne pas prendre de décision irréversible, rappelant que l'Union européenne ne va pas reconnaître une Catalogne indépendante. L'appel de Carles Puigdemont au dialogue risque de se heurter à la fermeté de Madrid. En effet, la vice-présidente du gouvernement, Soraya Sáenz de Santa Maria, a martelé qu'il n'y a pas de place pour la médiation, je cite, « entre la légalité et l'illégalité, entre la loi et la désobéissance, entre la démocratie et la tyrannie ». Fin de citation. Et le premier ministre espagnol Mariano Rajoy doit apporter sa réponse aujourd'hui devant le Parlement à Madrid.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Bonnes perspectives économiques pour la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, d'après le Fonds monétaire international. Parmi les plus performants en 2017 figurent la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Éthiopie et la Tanzanie. La République démocratique du Congo devrait pour sa part se contenter d'une croissance de 2,8%. L'Angola doit lui repasser dans le vert cette année. Plus généralement, l'avenir des pays importateurs de pétrole d'Afrique subsaharienne s'annonce meilleur que celui de leurs voisins producteurs. Le gouvernement ivoirien veut davantage encadrer ce qu'il appelle ses agripreneurs, c'est-à-dire ces jeunes entrepreneurs impliqués dans l'agriculture moderne. Le ministre de l'Agriculture a récemment annoncé la création de 5 centres de formation au coût de 48 milliards de francs CFA à l'intention de ces jeunes. D'après Fraternité Matin, Mamadou Koulibaly a également fait part d'un projet de transformation accélérée de la noix de cajou estimé à environ 45 milliards de francs CFA, lequel projet permettra aux petits producteurs d'améliorer leurs revenus. Le président nigérian Muhammadu Buhari demande au Parlement d'approuver un prêt extérieur de 5,5 milliards de dollars afin de reboucher les déficits de l'État. Le pays devrait sortir cette année de la récession à cause de la chute des prix du pétrole et des perturbations qui ont affecté sa production.
À présent, les sports avec Nicolas Pini. Nicolas, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Messi envoie de justesse l'Argentine à la Coupe du Monde 2018.
Grâce à un triplé de l'inévitable Lionel Messi, l'Argentine en route pour la Coupe du Monde 2018. Après une victoire 3-1 en Équateur cette nuit, l'Uruguay a battu de son côté la Bolivie 4-2. Et la Colombie a fait match nul, 1-2 avec le Pérou. Uruguayens et Colombiens sont qualifiés. À noter également que le Pérou décroche in extremis un billet pour les barrages. En revanche, le Chili battu 3-0 par le Brésil est éliminé.
Élimination aussi des Américains.
Et oui, c'est une énorme sensation dans la zone CONCACAF. Les États-Unis piégés à Trinidad et Tobago. Une défaite 2-1 qui condamne Team USA. Les Américains qui ne seront pas présents au Mondial 2018. Le Panama décroche un billet historique. Le Honduras, lui, est barragiste.
Ça passe aussi pour le Portugal en Europe.
Deuxième du groupe B avant la dernière journée des éliminatoires, le Portugal a infligé à la Suisse sa première défaite, 2-0, et décroché du même coup sa qualification directe pour la Coupe du Monde. Victoire facile 4-0 pour la Belgique face à Chypre, qui a battu son record de points en phase qualificative et égalé le total de 43 inscrits par l'Allemagne. Les frères Hazard ont inscrit les 3 premiers buts du pays des Belges. Vainqueur de la Biélorussie 2-1 à Paris et première du groupe A au terme des éliminatoires, la France s'est aussi qualifiée pour cette Coupe du Monde 2018. Les buts français inscrits par Griezmann et Giroud. Battue aux Pays-Bas 2-0, la Suède disputera les barrages de la Coupe du Monde.
Fin de la belle histoire syrienne dans la course à la qualification.
Oui, l'Australie qui a mis fin au rêve du Mondial 2018 de la Syrie, pays, vous le savez, ravagé par la guerre. Il a fallu une terrible prolongation et notamment le vétéran australien Tim Cahill, 37 ans, qui a inscrit un doublé hier. Une défaite donc 2-1 pour les Syriens qui peuvent dire au revoir à la Coupe du Monde.
Bilan mitigé pour l'Afrique du football à la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Inde.
Après sa défaite face à l'Iran lors du premier match, la Guinée a fait match nul hier en Inde, 2-2 face au Costa Rica. Fangetouma est soumé les buteurs pour le Sili national. Le Niger a lourdement chuté contre l'Espagne, défaite 4-0 pour le MENA. Le Mali jouera sa qualification jeudi contre la Nouvelle-Zélande et le Ghana face à l'Inde.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Kenya, l'opposant Raila Odinga a créé hier la surprise. Il a annoncé son retrait de la présidentielle du 26 octobre. Il exige l'annulation de ce scrutin et l'organisation à une date ultérieure d'un tout nouveau processus électoral. La Cour suprême a invalidé la réélection en août du président Uhuru Kenyatta. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint l'anthropologue chargé de recherche au CNRS et spécialiste du Kenya, Benoît Hazard.
La stratégie de Raila Odinga, elle paraît claire au premier abord si on s'en tient à son discours, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de réquisites nécessaires à la tenue de nouvelles élections le 26 octobre, qui passent notamment par la mise en œuvre des recommandations de la Cour suprême et des critiques qui ont été formulées par la Cour suprême auprès de la IBC, à savoir la modification d'un certain nombre ou le changement d'un certain nombre de personnes de la commission électorale d'une part, et d'autre part la mise en place d'un système de transmission qui permette d'avoir des résultats crédibles, et la IBC n'ayant accédé à aucune des demandes qui étaient formulées par la NASA, il est bien évident que Raila Odinga ne peut pas partir dans un scrutin à partir du moment où la transparence du résultat est mise en cause par une institution, enfin des institutions qu'il considère comme étant défaillantes.
Il veut l'annulation de ce scrutin pour qu'il y ait une bonne préparation d'une élection crédible. Est-ce qu'il a des arguments juridiques de son côté?
Il y a un certain nombre d'éléments, effectivement, d'ordre juridique qui pourraient aller à la faveur de Raila Odinga. Le problème, c'est que dans le même temps que ces élections devaient être reconduites dans un cadre constitutionnel qui est celui de la Constitution de 2010, le parti de Uhuru Kenyatta et Uhuru Kenyatta lui-même ont commencé à opérer un certain nombre de modifications de la Constitution portant sur la loi électorale en essayant d'en tirer avantage.
La commission électorale a annoncé une réunion d'urgence pour analyser la marche à suivre. Est-ce que tous les dés sont jetés?
Enfin, je ne pense pas que tous les dés soient jetés, c'est-à-dire que on a deux logiques qui s'affrontent. L'une qui est celle du jubilé et qui veut absolument aller aux élections le 26, bien que dans la pratique, et d'ailleurs la société Safran qui était en charge de la transmission des résultats électroniques et qui a à nouveau contracté pour cette élection, avait dit il y a quelques semaines qu'eux-mêmes n'étaient pas en mesure, techniquement et logistiquement, d'assurer ces nouvelles élections. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de conditions qui permettent la bonne tenue du scrutin qui ne sont pas remplies.
C'était Benoît Hazard, anthropologue chargé de recherche au CNRS et spécialiste du Kenya.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur ondes courtes, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Au Liberia, hier, le scrutin présidentiel et législatif s'est déroulé dans le calme, avec un taux de participation très élevé selon la Commission électorale nationale. Plus de 2 millions de Libériens étaient appelés à choisir celui ou celle qui va succéder à Ellen Johnson Sirleaf et en même temps renouveler les 73 sièges de la Chambre des représentants. Quand est-ce qu'on aura les résultats? Eh bien, Idriss Fall a joint notre confrère Jacob Joël de la Radio des Nations Unies à Monrovia.
Les résultats, ça a été bien dit, déterminé par NET, le bureau responsable, seul qui donnera les résultats. Cela peut se faire officiellement en 15 jours, mais je pense que dû à l'importance attachée à cette élection, les résultats commenceront à être entendus un peu plus tard dans la nuit. Il y a les médias qui sont des frères pour tout le monde qui sont là. Les médias sociaux et les représentants de différentes stations de radio qui sont tous concernés. Donc, tout le monde est déjà au courant de tel nombre de voteurs qui sont dans tel lieu. Donc, les résultats, selon NET, bien sûr, ça tombera quelques heures après la clôture des élections.
20 candidats, est-ce qu'il y en a qui se dégagent du lot déjà? Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un pourrait l'emporter dès le premier tour?
C'est un peu bizarre, 20 candidats à une seule élection présidentielle dans un petit pays comme le Libéria. C'est difficile à dire, c'est encore très tôt. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a quand même des partis très connus, tels que le parti de l'ancien footballeur George Weah. On ne peut pas passer dans des lieux de vote dans des quartiers sans pouvoir entendre son nom. Il y a le parti du vice-président sortant, qui est aussi candidat au parti au pouvoir. Il y a encore deux autres, dont la Liberty Party, dirigée par Charles Bronson.
Maintenant, l'enjeu du scrutin, le véritable enjeu, c'est quoi?
Nous, Libériens, les Libériens connaissent bien qu'il y a eu plusieurs années de guerre. Et vu la liste, la longue liste des candidats, c'est un peu, en autre façon, les conflits belligérants qui se sont transformés en parti politique, hein, puisque un certain Prince Johnson de Nemba, qui est encore très populaire, ne peut être voté que par les gens de Nemba. Ceux de l'OFA ne peuvent que parler de boycott. C'est un peu difficile à dire, mais au Libéria, au fond du cœur des Libériens, c'est un peu plus clair. Le choix est resté à eux de le faire.
Eh bien, c'était notre confrère Jacob Joël de la Radio des Nations Unies à Monrovia.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Burkina Faso, rien ne va plus au sein de la première force d'opposition politique du pays, le parti de Zéphirin Diabré. Une dizaine de députés ont annoncé la création d'un groupe parlementaire dissident au sein du parti à l'Assemblée nationale, dénommé UPC Renouveau Démocratique. De Ouagadougou, notre correspondant Issa Napon.
Le torchon brûle au sein de l'Union pour le Progrès et le Changement UPC, désormais divisé en deux groupes parlementaires à l'Assemblée nationale burkinabé. Des députés fondeurs au nombre de 13 aujourd'hui vivent mal un manque de soutien du parti lié à des accusations de complot parues dans la presse pour imploser le parti, mais aussi en raison de problèmes de gouvernance et de traitement inéquitable des députés au sein du parti, accuse Daouda Semboro, porte-parole des fondeurs.
Aujourd'hui, il y a des problèmes concrets qui font qu'il est difficile de travailler toujours avec l'ancien groupe parlementaire. Nous avons dit, en attendant que le parti règle ses problèmes, nous on va se mettre à côté dans un autre groupe pour travailler. Qu'au lieu de prendre à bras le corps ses problèmes, La réponse qui nous a été servie, c'est de la diffamation, c'est des injures. On nous prête des intentions de complot. Ça nous réconforte qu'il est effectivement difficile de discuter dans les instances du parti.
Les instances dirigeantes du parti y voient plutôt le développement d'un plan longuement ourdi avec de hauts responsables du parti au pouvoir. Le MPP dénonce Zéphirin Diabré, le patron de l'UPC.
Ce n'est rien d'autre qu'une étape dans le développement d'un complot contre le parti en gestation depuis janvier 2016. De manière indiscutable, l'Union pour le progrès et le changement a été l'objet d'une tentative de déstabilisation de la part d'officines liées au pouvoir du MPP. Je le dis, je le répète, je le réaffirme mille fois.
Ces tensions ont suscité d'autres départs vers le nouveau groupe. La députée Fatmata Korbiogo a rejoint la Fronde à son corps défendant, souligne-t-elle.
Quand j'ai entendu parler du mot « confesser », je suis rentrée dans tous mes états. Moi, je ne suis pas venue me confesser. Je suis venue demander pourquoi mon nom est sur la liste, parce que je ne comprends pas. Je ne me reconnais pas comploteur. À partir de ce moment, je me suis dit que nous sommes liés par un même problème. Si moi, je me désolidarise, si eux se réunissent et puis ils arrivent à régler leurs problèmes, moi, je serai seul.
Malgré la passe d'armes, le dialogue reste encore possible. L'espère se voir Zéphirin Diabré.
C'est à eux-mêmes qu'il appartient de se blanchir par leur déclaration. J'ai vu qu'ils ont fait des démentis. Le parti en prend acte et les encourage à montrer par leur comportement que ces accusations ne sont pas fondées.
Même son de cloche au niveau des frondeurs de l'UPC qui attendent des préalables pour s'asseoir autour d'une table.
Des gens qui disent qu'ils sont disposés, qu'ils sont ouverts au dialogue, qui envoient des porte-paroles qui sont membres du bureau politique national, discrédités, diffamés, insultés, dénigrés, leurs propres camarades. C'est regrettable, mais je pense que quelque chose est sauvable. Il doit réfléchir sérieusement à cette opportunité qui lui est donnée de se départir de toute influence pour apprécier à sa hauteur d'homme le problème qui se pose.
Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Niger, deuxième jour de grève. Ce mercredi, des enseignants-chercheurs des universités publiques, à l'appel de leur syndicat, ils observent un débrayage de 72 heures pour exiger essentiellement le paiement de leur salaire et des primes de recherche. De Niamey, notre correspondant Abdulrazak Idrissa fait le point.
À la porte d'entrée principale de l'université de Niamey, nous avons rencontré mardi matin Alassane, jeune étudiant en troisième année de psychologie.
Bon, on n'a pas fait cours car les enseignants sont en grève de 112 heures. C'est un matin de bonne heure, on se réveille pour la fac. Et arrivé à la fac, on dit que les enseignants sont en grève, donc c'est tellement décourageant. C'est frustrant même. Il y a aussi des examens qu'on doit faire et que tu pars matin de bonne heure, on dit que l'examen...
Le mouvement de grève de 72 heures est aussi bien suivi dans les autres universités publiques de l'intérieur du pays, selon le secrétaire général du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur, Sahabi Bakasso, qui revient sur la principale revendication qui a conduit à cette grève.
C'est le salaire. À cette date, il a béri, à le mois de juillet, août, septembre, comme arrivé. Ensuite, on peut citer Niamey, Zender, Tawa et Maradi qui n'ont pas encore perçu le mois de septembre.
Aujourd'hui, 10 octobre.
C'est la moindre de choses. Maintenant, en dehors des salaires, on a des primes de recherche. Par exemple, quand vous prenez Zender, Tawa, Tilaberi, toujours, ils ont des primes de recherche. C'est des primes qu'on donne trimestriellement. Donc, ils ont des primes de recherche impayées en termes d'arriérés. Zender a deux primes de recherche en termes d'arriérés. Difa a deux primes de recherche en termes d'arriérés. Et Maradi a une prime de recherche en termes d'arriérés. Tous ces problèmes, c'est des problèmes de subvention. Quand on avait rencontré le président le 23 avril dernier, on avait insisté sur cet aspect-là. Puisqu'on avait, si vous vous rappelez, l'année passée aussi, on avait vécu plus ou moins la même situation.
Le ministre des enseignements supérieurs, Yaouza Sadissou, se dit totalement surpris par le déclenchement de ce mouvement de grève.
En dehors de l'université de Tillabéri, il n'y a pas une seule université qui a un seul mois d'arriéré de salaire. Pour les autres premiers avantages, nous avons dit aux enseignants-chercheurs que la priorité du gouvernement, c'est d'abord le salaire qui est le minimum vital et nous ferons tout pour le garantir. Pour ce qui concerne les autres premiers avantages, qui sont aussi des droits, nous prendrons des dispositions de concert avec les différentes administrations rectorales pour les payer au fur et à mesure en fonction des disponibilités. Je suis entièrement surpris parce que la veille, on s'était retrouvés. Moi, j'avais eu l'impression que nous avons trouvé un terrain d'entente. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons poursuivre les discussions.
Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Zeynab Abdelrahman. Merci à Michel Joseph pour la mise en onde et à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sédoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.